OK, on va commencer notre 133e leçon dans notre série sur la théologie systématique. Ce soir, nous allons voir les devoirs des membres d'Église envers leur pasteur. Alors, on avait vu qu'il y avait l'aspect externe de l'adoration et l'aspect public interne, c'est-à-dire on a vu toutes les facettes de l'aspect interne, on est maintenant dans l'aspect public de l'adoration. Alors, il est bien triste de constater que les pasteurs sont souvent l'objet de critiques acerbes, de manque de considération et de manque de respect. Leurs conseils sont souvent ignorés ou, pire, méprisés. Toutes ces choses sont absolument contraires à l'enseignement des Saintes Écritures. Hébreux, chapitre 13, verset 17. « Obéissez à vos conducteurs et ayez pour eux de la déférence, car ils veillent sur vos âmes comme devant en rendre compte. » Qu'il en soit ainsi afin qu'il le fasse avec joie et non en gémissant, ce qui ne vous serait d'aucun avantage. La Sainte Bible enseigne que chaque membre d'une église locale a une série de devoirs et d'obligations envers leur pasteur. Ce sont des commandements du Seigneur qui se doivent d'être obéis. Il faut donc qu'il fasse plusieurs choses, dont les connaître et les estimer, se souvenir d'eux, leur obéir, s'y soumettre et prier pour eux, pourvoir à leurs besoins et être concernés pour eux. Donc, on va reprendre les points un par un. Le premier, c'était les connaître et les estimer. Alors, une des façons de connaître les personnes, c'est que le membre se fasse lui-même connaître à leurs anciens. 1 Thessaloniciens, chapitre 5, versets 12 et 13. Nous vous prions, frères, d'avoir de la considération pour ceux qui travaillent parmi vous, qui vous dirigent dans le Seigneur et qui vous exhortent. Ayez pour eux beaucoup d'affection à cause de leur œuvre. Soyez en paix entre vous. Il est bon de leur faire savoir l'état et la condition de votre âme. Il est conseillé de leur demander conseil dans nos cas de conscience et de leur présenter nos problèmes d'ordre spirituel et nos besoins. Donc, une des façons de les connaître et estimer, c'est de se faire connaître à eux. Autre, c'est les reconnaître comme ministres de Dieu et pasteurs. À Colossiens 1, chapitre 1, verset 7, « D'après les instructions que vous avez reçues d'Épaphras, notre bien-aimé compagnon de service, qui est pour vous un fidèle ministre de Christ. » Alors, en politique, on sait c'est quoi un ministre? Quelqu'un qui dirige une partie du gouvernement. Alors, le Seigneur, quand il parle des pasteurs et des anciens, il dit que ce sont des ministres. Alors, une des façons de les connaître et les estimer, c'est de reconnaître qu'ils sont des ministres de Dieu. Autre façon de les connaître et de les estimer, c'est de leur montrer du respect. Philippiens, chapitre 2, verset 29. Alors, dans le contexte, il parle encore d'Épaphrodite. Recevez-les donc dans le Seigneur avec une joie entière et honorez de tels hommes, car c'est pour l'œuvre de Christ qu'il a été près de la mort, ayant exposé sa vie afin de suppléer à votre absence dans le service que vous me rendiez. Voyez-vous, ils sont en train de dire que Épaphrodite aimait tellement les brebis, aimait tellement Paul qu'il a exposé sa propre vie pour faire avancer l'œuvre du Seigneur. Luc 10, verset 16. « Celui qui vous écoute, m'écoute, et celui qui vous rejette, me rejette, et celui qui me rejette, rejette celui qui m'a envoyé. » Voyez, vous faites un lien entre la personne qui parle, qui est un instrument de Dieu. Il dit, si vous rejetez celui-là, vous me rejetez. Et si vous me rejetez, vous rejetez Dieu le Père. Il fait un lien direct, une chaîne. Autre façon de les connaître et les estimer, c'est vraiment les aimer. Jean, chapitre 13, versets 34 et 35, « Je vous donne un commandement nouveau. Aimez-vous les uns les autres comme je vous ai aimé, vous aussi, aimez-vous les uns les autres. » À ceci, tous connaîtront que vous êtes mes disciples si vous avez de l'amour les uns pour les autres. Cinquième façon de les connaître et les estimer, c'est de se préoccuper de leur confort et de leur bien-être. 1 Corinthiens, chapitre 16, verset 10. « Si Timothée arrive, faites en sorte qu'il soit sans crainte parmi vous, car il travaille comme moi à l'œuvre du Seigneur. » 1 Timothée, chapitre 5, verset 19. « Ne reçois point d'accusation contre un ancien, si ce n'est sur la déposition de 2 ou 3 témoins. » Donc, les membres doivent préserver leur réputation et les défendre contre les fausses accusations. Alors, parmi les raisons pourquoi la Bible demande ces choses, c'est que ce sont des travailleurs de Dieu. 1 Pierre, chapitre 5, verset 2. Paissez le troupeau de Dieu qui est sous votre garde, non par contrainte, mais volontairement, selon Dieu, non pour un gain sordide, mais avec dévouement. Alors, une des raisons, ce sont des travailleurs de Dieu. Une autre raison, ils sont placés là pour surveiller le troupeau du Seigneur. Troisième raison, ils conseillent et avertissent. Et parmi ces conseils et ces avertissements, ils reprennent, ils corrigent, avertissent contre les dangers du péché, de la chair, du monde et de Satan. Ils disciplinent aussi contre l'erreur et les immoralités. Autre raison, ils se doivent d'être estimés et honorés. Philippiens, chapitre 2, versets 25 à 30. J'ai estimé nécessaire de vous envoyer mon frère Épaphrodite, mon compagnon d'œuvre et de combat, par qui vous m'avez fait parvenir de quoi pourvoir à mes besoins. Car il désirait vous voir tous et il était fort en peine de ce que vous aviez appris sa maladie. Il a été malade, en effet, et tout près de la mort. Mais Dieu a eu pitié de lui, et non seulement de lui, mais aussi de moi, afin que je n'eusse pas tristesse sur tristesse. Je l'ai donc envoyé avec d'autant plus d'empressement, afin que vous vous réjouissiez de le revoir et que je sois moi-même moins triste. Recevez-le donc dans le Seigneur avec une joie entière et honorez de tels hommes, car c'est pour l'œuvre de Christ qu'il a été près de la mort, ayant exposé sa vie, afin de suppléer à votre absence dans le service que vous me rendiez. Donc, la première chose, c'était les aimer, les estimer avec tous ces sous-points qu'on vient de regarder. La deuxième chose, c'est se souvenir d'eux, leur obéir, se soumettre à eux et prier pour eux. Donc, on reprend les points. Se souvenir d'eux. Hébreux, chapitre 13, verset 7. Souvenez-vous de vos conducteurs qui vous ont annoncé la parole de Dieu. Considérez quelle a été la fin de leur vie et imitez leur foi. Il faut se souvenir de leurs enseignements. Se souvenir d'eux pour les honorer et leur manifester du respect. Se souvenir d'eux pour les soins extérieurs et les imiter puisque ceux-ci sont censés être des modèles. Deuxièmement, leur obéir. Hébreux 13, 17. Obéissez à vos conducteurs et ayez pour eux de la déférence car ils veillent sur vous, sur vos âmes comme devant rendre compte. Qu'il en soit ainsi afin qu'ils le fassent avec joie, non en gémissant, ce qui ne vous serait d'aucun avantage. Comme ils sont des guides, des leaders et des gouverneurs, les membres doivent leur obéir quant à l'assistance aux assemblées, l'attention lors des sermons, l'étude des Écritures, prendre les ordonnances, se soumettre à leurs avertissements, leurs reproches et leurs réprimandes. 1 Pierre, chapitre 5, versets 2 à 5. Paissez le troupeau de Dieu qui est sous votre garde, non par contrainte, mais volontairement selon Dieu, non pour un gain sordide, mais avec dévouement, non comme dominant sur eux, sur ceux qui vous sont échus en partage, mais en étant les modèles du troupeau. Et lorsque le souverain pasteur paraîtra, vous obtiendrez la couronne incorruptible de la gloire. De même, vous qui êtes jeunes, soyez soumis aux anciens, et tous, dans vos rapports mutuels, revêtez-vous d'humilité, car Dieu résiste aux orgueilleux, mais il fait grâce aux humbles. Donc, les pasteurs veillent également à préserver les brebis des erreurs doctrinales et des hérésies, préservent le troupeau du vice et des immoralités. Donc, dans le deuxième point, il y avait aussi prier pour eux. Les membres doivent prier pour leur pasteur, pour leur étude, pour leur préparation d'enseignement et de prédication, pour leur ministère public, pour leur conduite dans le monde, pour leur santé et pour le bien-être temporel, leur bien-être temporel et spirituel. C'est bien des choses, mais quand on les regarde comme ça, on se rend compte qu'au cours de notre vie, on n'a pas toujours fait ce que les Écritures nous demandent. Éphésiens, chapitre 6, verset 19. « Priez pour moi, afin qu'il me soit donné, quand j'ouvre la bouche, de faire connaître hardiment et librement le mystère de l'Évangile. » Vous voyez, ce n'est pas n'importe qui parle. Paul lui-même sentait qu'il avait besoin de prière et il les demandait aux membres. Colossiens, chapitre 4, versets 3 et 4. « Priez en même temps pour nous, afin que Dieu nous ouvre une porte pour la parole, en sorte que je puisse annoncer le mystère de Christ, pour lequel je suis dans les chaînes, et de le faire connaître comme je dois en parler. » Donc, il demande que les membres prient pour qu'il y ait des portes ouvertes, et en plus, il dit, il demande pour qu'ils puissent le faire connaître de la manière dont il doit en parler. Donc, ça arrive qu'on rencontre du monde, on ne sait pas quoi dire, mais je pense qu'il faut le demander à Dieu de nous donner, d'être capable de comme il dit, et de le faire connaître comme je dois en parler. Alors, ça fait bien des choses, mais des fois, quand on revise ces leçons-là, ça nous fait prendre conscience qu'on a plusieurs choses qu'il faut demander pour les anciens, les pasteurs. 2 Thessaloniciens, chapitre 3, versets 1 et 2. Au reste, frères, priez pour nous, afin que la parole du Seigneur se répande et soit glorifiée comme elle l'est chez vous, et afin que nous soyons délivrés des hommes méchants et pervers, car tous n'ont pas la foi. Alors, il y a plusieurs choses là-dedans. Quand tu annonces l'Évangile, tu es sûr que tu vas t'attirer des ennemis quelque part qui vont te faire toutes sortes de problèmes. Et non seulement ils demandent de prier pour que la parole soit répandue, mais ils demandent aussi pour que tu sois délivré des ennemis qui peuvent t'entourer. Les ennemis, ça peut être des hommes, ça peut être des anges aussi, des anges mauvais. Donc, le troisième point, c'est à pourvoir à leurs besoins. Les membres doivent subvenir à leurs besoins et à ceux de leur famille. Quand on regarde, je me souviens d'avoir étudié dans mon cours d'histoire des baptistes, c'était une grosse brique qu'ils nous avaient donné à lire. C'est toute l'histoire des baptistes depuis le 17e siècle, dans tous les pays. Et une chose qui revenait constamment, c'est dans presque tous les pays, les membres avaient des manquements envers les pasteurs. L'idée fondamentale, c'est que une synagogue dans le temps, pour avoir une synagogue, il fallait que tu aies 10 personnes. Si les 10 personnes donnaient 10 % de leurs revenus, ça faisait en sorte que la personne qui était en charge avait la moyenne de salaire des 10 remis à la personne. Alors, ça prendrait normalement 10 personnes pour faire vivre une personne, si tout le monde donnerait la dîme. Alors, ce que je voyais dans ces cours-là, c'est que c'était constant au cours de l'histoire que les membres des églises locales ont manqué à leur devoir là-dessus, ce que ça a fait en sorte que ça forçait les gens, bien souvent. Souvent, t'as des gros, assez grosses églises, 20, 25, 30. T'as pas nécessairement des gens riches, mais le fait qu'ils ne donnaient pas ce qu'ils devaient donner faisait en sorte que souvent le pasteur était obligé d'aller travailler. Mais ce que les gens se rendent pas nécessairement compte quand ils font ça, c'est que ça diminue la qualité de l'enseignement et du service général du pasteur quand il est obligé d'aller travailler pour amener des enseignements. Alors, c'est important qu'on se le fasse souvenir parce que c'est pas nouveau dans l'histoire, puis ça va probablement continuer encore, mais c'est pour ça que de temps en temps, il faut remettre les pendules à l'heure, comme on dit. Galates, chapitre 6, verset 6. Voyez-vous, c'est un verset qui est très clair ici. Que celui à qui l'on enseigne la parole, donc c'est les membres, fasse part de tous ses biens à celui qui l'enseigne. Donc, c'est vraiment l'idée de donner une partie de tes revenus à celui qui enseigne, de manière à ce qu'il soit capable de le faire à temps plein. C'est pas toujours le cas, mais ça devrait. Du moins, quand l'Église est assez importante pour pouvoir le faire. 1 Corinthiens, chapitre 9, versets 7 à 14. Qui jamais fait le service militaire à ses propres frais? Qui est-ce qui plante une vigne et n'en mange pas le fruit? Qui est-ce qui fait paître un troupeau et ne se nourrit pas du lait du troupeau? Ces choses que je dis n'existent-ils que dans les usages des hommes? La loi ne le dit-elle pas aussi? Car il est écrit dans la loi de Moïse, « Tu n'emmuselleras point le bœuf quand il foule le grain. » Dieu se met-il en peine des bœufs ou parle-t-il uniquement à cause de nous? Oui, c'est à cause de nous qu'il a été écrit que celui qui laboure doit labourer avec espérance et celui qui foule le grain doit fouler avec l'espérance d'y avoir part. Si nous avons semé parmi vous les biens spirituels, est-ce une grosse affaire si nous moissonnons vos biens temporels? Si d'autres jouissent de ce droit sur vous, n'est-ce pas plutôt à nous d'en jouir? Mais nous n'avons point usé de ce droit. Au contraire, nous souffrons tout, afin de ne pas créer d'obstacle à l'Évangile de Christ. Ne savez-vous pas que ceux qui remplissent les fonctions sacrées sont nourris par le temple, que ceux qui servent à l'autel ont part à l'autel? De même aussi, le Seigneur a ordonné à ceux qui annoncent l'Évangile de vivre de l'Évangile. J'ai souvent entendu des personnes dire que le pasteur ne devra pas avoir de salaire en se basant sur le verset que Paul dit qu'il y a renoncé. Paul y a renoncé parce qu'il était dans des circonstances particulières. Il ne voulait pas qu'on l'accuse qu'il fasse ça pour recevoir des biens. Il le dit lui-même, c'est pas parce qu'il n'y avait pas droit. Il y avait droit. Mais il renonçait de manière à ne pas créer d'obstacle pour l'Évangile. Il y en a qui se servent du verset pour comme s'excuser qu'ils n'ont pas de devoir financier envers leur pasteur. C'est complètement fou de dire ça, là. C'est mal comprendre le contexte. Très important. Et le quatrième point, être concerné pour eux. Les membres d'église locale doivent donner leur appui, leur soutien et leur aide à leur pasteur. Ils doivent l'encourager, sympathiser avec eux dans leurs épreuves et troubles, les défendre et veiller à leur réputation. Ils doivent aussi les aider dans leur combat contre les faux prophètes et les faux enseignants et les aider dans leur tâche. 2 Timothée, chapitre 1, versets 15 à 18. « Tu sais que tous ceux qui sont en Asie m'ont abandonné, entre autres Phygèle et Hermogène. Que le Seigneur répande sa miséricorde sur la maison d'Onésiphore, car il m'a souvent consolé. Il n'a pas eu honte de mes chaînes. Au contraire, lorsqu'il est venu à Rome, il m'a cherché avec beaucoup d'empressement et il m'a trouvé. Que le Seigneur lui donne d'obtenir miséricorde auprès du Seigneur en ce jour-là. Tu sais mieux que personne combien de services il m'a rendu à Éphèse. » Oui, il donne un exemple d'un homme. Tout le monde avait abandonné Paul. Lui, il s'est donné à peine de le chercher dans Rome. C'était risqué, là, parce que c'était un gars qui était déjà en prison. Il était déjà mal vu à cause de l'Évangile. Et il nous dit ici que au contraire, il n'a pas eu honte de mes chaînes. Il l'a souvent consolé. Alors, Paul était dans des circonstances extrêmement difficiles. Il ne faut pas le voir comme une personne qui n'avait pas besoin d'être consolé. Lui-même, il dit, « Il m'a souvent consolé. Il n'a pas eu honte de mes chaînes. Au contraire, lorsqu'il est venu à Rome, il m'a cherché avec beaucoup d'empressement et il m'a trouvé. » Là, vois-tu, il répond, il dit, « Vu qu'il a eu miséricorde envers moi, il demande à Dieu de lui donner miséricorde envers lui aussi. » Quelles sont les applications qu'on peut faire à partir de cette très brève étude sur les devoirs des membres envers les pasteurs? Premièrement, demandons sincèrement au Seigneur de nous montrer nos manquements et nos faiblesses quant à nos devoirs et obligations envers les pasteurs. Deuxièmement, implorons-le de nous donner la grâce de corriger ces choses et d'obéir à la Sainte Parole et de devenir des modèles en cette matière. Troisièmement, soyons reconnaissants au Seigneur pour les hommes de Dieu donnés aux églises locales. Par sa grâce et pour sa gloire. Amen. Amen.